Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Kassai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de nous accepter chez vous, mesdames et messieurs. Merci encore de votre fidélité à Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur la fréquence de la paix. Le 29e sommet de l'Union africaine, UA, a pris fin le mardi 4 juillet dernier à Addis Abeba. Au cours de ses assises, la délégation congolaise a soulevé la question de l'ingérence étrangère dans les affaires politiques africaines et notamment celle de la RDC. Selon Léonard Cheo Kitundu, ministre des Affaires étrangères de la RDC, contre toute attente, la demande de la RDC a été accueillie favorablement et la conférence a condamné ouvertement cette pratique des sanctions et a demandé aux organisations régionales qui le prennent de les retirer. Deux questions pour débattre au cours de cette émission. La première, quel peut être l'impact de ce soutien de l'Union africaine? Et deuxième question, poussera-t-il l'Union européenne à retirer ses sanctions? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 09 97 06 49 69 ou bien au 09 97 06 63 80 pour votre intervention en direct. Notez et que vous êtes nombreux qui souhaiteraient donc participer en direct à cette émission. Les débats s'étaient également sur notre page Facebook. Et merci à vous tous qui avez déjà accordé l'intérêt à ce sujet. 5597 personnes ont été atteintes par ce sujet ici au pays et à l'étranger. Cette émission est supervisée par Martin Sebujangue, Pierrot et Lameji la réalise. Héritier Sidakala sur la mise en onde de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Monsieur Justin Bitakwira qui est avec nous. Bonjour Monsieur le Ministre.
Bonjour J.R.
Vous êtes ministre du Développement Rural et acteur politique. La délégation congolaise représentée par les différents ministères et certains acteurs politiques au 29e sommet de l'Union africaine a présenté ou a posé le problème de l'ingérence étrangère dans les affaires politiques africaines et notamment celle de la RDC. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il y a beaucoup de par rapport à ces plaidoyers de la RDC, quel peut être l'impact de ces soutiens de l'Union africaine qui a d'ailleurs, au travers de sa conférence, condamné ouvertement cette pratique des sanctions et a demandé aux organisations régionales qui les prennent de les retirer. Et la deuxième question, poussera-t-il, donc cette position poussera-t-elle l'Union africaine, l'Union européenne, pardon, à retirer ces sanctions?
Oui, disons d'abord que, vous savez, l'Union européenne vient de très loin. De très loin. Et au début, c'était le Benelux, qui était constitué à peu près de trois pays. Mais aujourd'hui, ils en sont arrivés jusqu'à 27. En dehors de la Grande-Bretagne aujourd'hui, avec son Brexit, qui voudrait effectivement quitter cette organisation. Donc c'est par la capacité d'organisation qu'on parle aujourd'hui de l'Union européenne. Et nous avons l'obligation, nous en tant qu'Africains, d'imiter ce qui est bon. Et ce qui est bon à l'Union européenne est qu'ils ont cette forte capacité d'organisation. Et à notre tour, et pour notre survie d'abord, en tant que continent africain, nous devons nous souder et nous devons nous organiser parce que l'Afrique a aussi apporté au monde, ne vous en faites pas. L'Afrique a apporté au monde, et beaucoup d'ailleurs, par notre capacité d'abord d'hospitalité, notre capacité de solidarité, notre capacité de partage. Donc l'Afrique a apporté au monde. Et effectivement, si l'Union européenne aujourd'hui pense que tout lui est permis, et qu'elle s'élève chaque matin et dit « je sanctionne tel », c'est de cette manière-là que nous étions leurs esclaves. Nous fûmes esclaves des Européens. On nous a vendus comme des bêtes, avec des chaînes au cou. Et c'était dans tous les quatre coins du continent. Sans parler uniquement des Gorées. Vous savez qu'en Afrique de l'Est, en Tanzanie, il y avait un autre marché des esclaves. et après les esclaves. Le cas de la République démocratique du Congo. Le cas de la République démocratique du Congo est une exception. Ça a été comme une marchandise à la conférence de Berlin. Où on dit qui prend l'État indépendant du Congo. On donne à la Belgique, semble-t-il. Il fallait les donner au plus petit État européen. Et effectivement, nous sommes devenus la colonie belge, par la volonté des Européens. Alors, aujourd'hui, nous sommes en 2017. La même Europe pense effectivement que les Africains...
Mais comment se présentent les rapports de force aujourd'hui?
Non, je dis... Oui. C'est pas question seulement d'Afrique...
Les rapports de force.
Non, pas du tout. J'ai dit que c'est
la modernité, c'est pratiquement l'Union européenne qui a donné l'impulsion. Et s'il faut parler au fait de beaucoup d'avancées sur le plan mondial, la mondialisation, c'est encore l'Europe.
Non, même les habits que nous portons, c'est l'Europe. Nous, nos ancêtres portaient les habits et tiraient de corses d'arbres. Ça, c'est reconnu. Mm-hmm. Et s'agissant de la technologie. Nous ne devons pas nous cacher la face. Nous devons beaucoup à l'Europe. Mmh. Mais en ayant ces devoirs de reconnaissance, c'est pas à dire que jusqu'en 2017, nous sommes restés les esclaves des Européens. Pourquoi ne font-ils pas autant au pays de l'Asie? Pourquoi il ne faut pas autant? Parce que l'Asie, d'où vient d'ailleurs aujourd'hui ce qu'on appelle les dragons de l'Est. C'est parce que l'Asie a eu une certaine capacité d'organisation et de se moderniser. Et nous devons imiter cette façon-là. Donc, l'Europe se permet tout par rapport aux États africains parce qu'ils savent que nous sommes fragiles. Ils savent que nous sommes divisés. Ils savent qu'ils ont des pions entre nous-mêmes.
Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Parce que nos sociétés traditionnelles étaient très bien organisées à l'époque. Et au fil du temps, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait vraiment revirement?
Et vous savez, l'Afrique c'est une chaîne de collines. Je dis bien c'est une chaîne de collines, en partant de nos villages. Et vous savez que chaque chefferie à l'époque, avant même la colonisation, chaque chefferie était un État à part. C'était un État à part. Mmh. Et nous, la RDC, nous sommes l'ensemble d'un tout. Je dis bien d'un tout. C'est l'ensemble des chefferies, c'est l'ensemble des villages, c'est l'ensemble des groupements. C'est comme ça que nous sommes la République démocratique du Congo. En partant de l'océan Atlantique jusque vers l'océan Indien. Et maintenant, notre capacité d'organisation par rapport à nos ancêtres. Nos ancêtres aussi. Et c'est pourquoi j'ai dit que l'Afrique a beaucoup apporté. En réalité, c'est parce que nous avons abandonné nos propres mœurs. Nous avons abandonné nos propres cultures pour tout embrasser. Le bien et le mal venant de l'Occident, nous avons tout embrassé. Et nous avons oublié nos propres sources. Nos sources, c'est quoi? Mais c'est hier, pour ceux qui ne le savent pas. Notre force vitale en tant qu'Africains, c'est que nous avons cet esprit de partage. Et partout où je suis passé, j'essaie d'expliquer à la face du monde que notre force en tant qu'Africains est que nous avions cette capacité de partage. Cette capacité d'hospitalité. Alors, savez-vous qu'une simple chèvre de dot, pour une fille de la famille, même la tante qui est à 100 km, avait droit à son morceau. Mm-hmm. Une simple poule au village. On se la partage entre 5 familles.
Hospitalité légendaire, la solidarité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand la RDC prend une position selon laquelle que l'Union européenne devra retirer des sanctions, par exemple, adressées contre certaines personnalités de la RDC, est-ce que vous pensez que c'est possible, le fait simplement que l'Union africaine ait, au fait, ouvertement dénoncé ou condamné cette façon de faire de l'Union européenne?
Et je voulais insister que l'Union européenne a une chance extraordinaire. Parce que l'Union européenne est convaincue que parmi les Congolais, il est là ses propres pions. Parmi les Congolais, il est là certains mercenaires à leur service. Vous savez-vous que quand l'Union africaine a pris cette décision, certains Congolais, pas Africains, certains Congolais se sont fâchés, énervés. Pourquoi l'Union africaine ne peut appuyer la République démocratique du Congo? Et c'est ça notre malheur. C'est que quand un malheur nous frappe, au lieu que nous tous nous mettions à pleurer, au lieu que nous tous nous soyons solidaires, il y en a qui festoient. Il y en a qui festoient. Pourquoi ils festoient?
Ils festoient parce que, selon eux, cette décision, au fait, vient répondre, au fait, à leurs attentes, disons, qui est résultante donc de plusieurs frustrations qu'ils ont pu accumuler.
Oui, frustration. Hier, je ne cesserai jamais de dire que aucun individu, qui qu'il soit où qu'il soit, et partout où il est, ne peut confondre sa mère parmi des milliers de femmes, même si votre mère est maigre. Mmh. Et c'est ça. La RDC, c'est notre mère à tous.
Est-ce que cette voix sera attendue?
J'espère. Petit à petit, ça arrivera. Vous savez que ce qui effectivement facilite la tâche à l'Union européenne, pour tout se permettre, ce sont des rapports locaux. Ce sont des rapports de la République du Congo. Ou alors une certaine opposition qui pense que le salut de ce pays vient de l'Union européenne. Pourtant pas.
Voilà, on va revenir à vous, monsieur le ministre Justin Bitakwira. Vous êtes ministre au développement rural et acteur politique. Vous avez un regard par rapport à ces plaidoyers faits par la RDC pour contraindre l'Union européenne à retirer les sanctions. On va rejoindre quelques auditeurs qui nous ont qui sont intéressés par rapport à ces sujets, mais nous rappelons nos moyens de contact, le 09 97 06 49 69 ou encore le 09 97 06 63 80. Pour votre intervention en direct, et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Parole aux auditeurs.
Séraphin, vous êtes à Kinshasa, bonjour et bienvenue.
Bonjour Monsieur Juer, bonjour Son Excellence Bitakwira.
Alors Séraphin, vous avez suivi l'actualité, le 29e sommet de l'Union africaine a pris fin le mardi 4 juillet à Addis Abeba et au cours de ces assises, la délégation de la RDC représentée par certains ministres et d'autres acteurs politiques ont soulevé cette question sur de l'ingérence donc étrangère dans les affaires politiques africaines et notamment celle de la RDC. Est-ce que pensez-vous que c'est le soutien de l'Union africaine qui a condamné ouvertement cette pratique des sanctions et a demandé aux organisations régionales qui les prennent de les retirer, elle pourrait avoir un impact et poussera également l'Union européenne à retirer ses sanctions?
Bon, personnellement, je voudrais d'abord dire que je suis contre cette décision de l'Union africaine. Parce que ce que nous devons noter, c'est quoi? L'Union européenne n'a pas sanctionné la République démocratique du Congo. Ça, il faut le retenir. Mais l'Union européenne a sanctionné certains individus de la République démocratique du Congo. Donc, sur 70 millions d'habitants au moins que nous avons dans ce pays, il n'y a qu'au moins 7 ou 8 personnes qui ont été sanctionnées. Donc, ça, il faut le dire clairement. Parce que jusque-là, le pays continuera à recevoir les dons ou l'appui de l'Union européenne. Mais certains individus qui sont sanctionnés, ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, je suis Son Excellence Bitakwira, qui a dit, pardon, avant de répondre à votre question, je vais d'abord contenir Son Excellence, parce qu'il a dit lui-même que l'Union européenne a certains individus qu'il est en train d'appuyer. Il ignore que son chef à lui, qui est le président de la République, lui-même a été soutenu par l'Union européenne à un certain moment. Parce que s'il est aujourd'hui au pouvoir, c'est grâce à l'Union européenne et les États-Unis. Nul n'ignore que M. Kabila n'a jamais gagné les élections dans ce pays. Il a triché
à travers la communauté
internationale.
Oui, Séraphin, le mot il est quand même fort quand tu dis tricher. Vous n'avez pas de preuves. Je ne sais pas si vous avez été témoin dans un bureau de vote. Est-ce que vous avez été témoin? Non, juste une question de curiosité. Est-ce que vous avez été témoin? Vous avez toutes les données du résultat publié par Malou, publié par Ngoï Moulunda. Est-ce que vous avez les informations? Est-ce que vous pouvez nous donner quand même la cartographie? Comment ça s'est représenté?
Souvenez-vous...
donnez-nous juste une idée sur...
Il y a eu des rapports de Sainte-Carte. Ce n'est pas ça, il y a eu des rapports, il y a eu des rapports...
Les rapports disaient quoi? Les chiffres, c'est pour vous, si vous pouvez...
Je reviens au sujet du jour.
Voilà, heureusement. Merci beaucoup. Revenons au sujet. Revenons quand même au sujet.
Je reviens au sujet du jour. La République démocratique du Congo a signé certains traités. Et nul n'ignore, partant de la Constitution de notre pays, les traités sont au-dessus de notre loi même. Alors, dès lors que nous avons signé les traités du respect des droits de l'homme, alors pourquoi l'Union européenne pouvait-elle accepter aujourd'hui que certains individus puissent tuer les ressortissants de leur pays par simple plaisir de rester au pouvoir? Non! qui bloquent le processus électoral. Ce sont ces individus là qui sont en train de bloquer le processus électoral au niveau de notre pays, d'où l'Union européenne insiste à ce qu'il y ait des élections. Alors on ne peut pas accepter à ce que certaines personnes puissent se tuer déjà parce qu'ils sont en train de réclamer leurs droits, ils sont en train de réclamer les élections qui sont constitutionnelles.
Est-ce que vous ne pensez pas, Séraphin, qu'il s'agit là d'une ingérence quand c'est disons d'autres États qui s'ingèrent dans les affaires internes?
Non, on parle d'ingérence lorsqu'il y a seulement la politique, mais lorsqu'il y a d'aide qu'on nous amène d'aide, on ne parle pas d'ingérence. Là, il n'y a pas d'ingérence. Lorsqu'il nous donne des aides, il n'y a pas d'ingérence. Mais lorsqu'il parle de la politique, on dit qu'il y a des ingérences, il n'y a pas d'ingérence. Parce qu'ils sont en train de dire rien que de respecter la conscience de notre pays, c'est tout. Respecter la conscience, c'est amener la population aux élections. La population a besoin des élections. Quand on organise les élections, il n'y aura pas l'ingérence de l'Union européenne.
Merci.
L'Union européenne est là juste pour interpeller les autorités congolaises afin de débloquer ce processus électoral. C'est ce que nous voulons tous.
Merci beaucoup, Séraphin. Pour vous, en tout cas, vous êtes contre cette décision de l'Union européenne. Ça, je ne sais pas si vous parlez de l'Union africaine ou de l'Union européenne, parce que par la suite, à en croire vos propos, c'est comme si, bon, vous soutenez cette décision au même moment. Il y a contradiction dans les propos. Alors, merci beaucoup, Séraphin, parce que vous parlez de processus électoral qui connaît un blocage, en tout cas, et à ce niveau, vous aimeriez bien que les choses avancent et vous saluez le regard aussi de l'extérieur. Mais vous n'avez pas dit si cette position de l'Union africaine aura un impact sur la décision et pourrait amener à changer. Mais on va quand même prendre Adrien qui est à Kinshasa. Adrien, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à l'excellence Bitakwira, bonjour à tous les auditeurs.
Est-ce que vous pensez que cette position de l'Union africaine qui condamne ouvertement cette pratique des sanctions et a demandé aux organisations régionales qu'ils les prennent de les retirer, disons, poussera également l'Union européenne à retirer ces sanctions?
D'abord, je veux commencer par la déclaration de l'Union africaine et puis deuxièmement, je vais prendre la substance qui a poussé à ce que l'Union africaine passe à cette déclaration. L'Union africaine, c'est une organisation internationale au même titre que l'Union européenne. Seulement l'Union européenne, comme le nom le dit, c'est juste une organisation internationale qui réunit tous les États d'un continent bien précis, différent de celui de l'Afrique. Donc d'abord, l'Union africaine n'a pas de point de vue à émettre sur le plan de l'organisation. Je félicite l'introduction de l'excellence quand il a commencé à parler sur le rôle de l'Afrique, c'est très important, et il a dit d'ailleurs, je félicite encore, qu'il faut copier ce qui est bien. L'organisation de l'Union européenne fait que l'Union européenne soit puissante. Et si je ne m'abuse, l'Union européenne finance même l'Union africaine à peu près 80%. Donc je vois très mal quelqu'un commandeur puisse encore donner des leçons à celui qui le donne. Et en plus, pourquoi on a sanctionné? Je félicite aussi Arsène parce qu'il a déjà balayé une partie de mon intervention. Ici, on n'a pas visé la République démocratique du Congo comme État, parce que les organisations internationales ont comme membres les États, et les États sont représentés par le président de la République, par le Premier ministre, ou par le ministère des Affaires étrangères. Personne d'entre ces trois institutions n'a été ciblé. Et si vous voyez les sanctions, il y a toujours une motivation dans les sanctions. Donc l'Union européenne se justifie. Et lorsque vous voyez ces motivations et que vous lisez l'acte constitutif de l'Union africaine, notamment du 11 juillet, vous retrouvez notamment les mêmes griefs qu'on a reprochés à ces sanctionnés, que ce soit l'article 3 dans l'objectif, que ce soit l'article 4 dans les principes directeurs de l'Union africaine. Donc aujourd'hui, je vois très mal que l'Union africaine, d'abord sur le plan de mesure, puisse condamner, n'est-ce pas, la position de l'Union européenne. C'est très ridicule, JR, que nous arrivions à cette situation, parce que l'Union européenne ne vient que répondre à une demande, dit à haute voix ce que les Congolais pensent tout bas. Je vois très mal que nous arrivions, par exemple, en France, qu'à la fin du mandat de M. Macron, que l'organisation responsable des élections vous dise, par exemple, non, il y a eu une crise mondiale, on n'a pas d'argent pour organiser les élections. Ça fait très mal, ça c'est rien que la mentalité africaine. Vous trouvez un président d'une commission indépendante qui a eu tout le temps, qui devrait organiser les élections en 2016, qui n'a pas su, en 2017, va arriver en Europe, qui va se prononcer et dire, voilà, il n'y a plus possibilité d'organiser les élections cette année. Mais l'Union africaine ne dit rien. Si vous suivez l'article 4, point H de la charte, dit ce qui suit. Le droit de l'Union d'intervenir dans un État membre sur décision de la conférence dans une condition grave, à savoir les crimes de guerre, le génocide et crimes contre l'humanité. Si vous voyez les sanctions, on a sanctionné notamment un des cadres pour donc l'usage disproportionné des forces. Il y a aussi les massacres de Kassai qui constituent des crimes. Mmh. Est-ce que l'Union africaine s'est prononcée? Jamais. Nous avions suivi la déclaration de 9 anciens chefs d'État africains, conscients, et ainsi que l'ancien secrétaire général des Nations Unies, qui se sont prononcés dans le cadre de condamner ces massacres et de demander au gouvernement congolais de pouvoir organiser les élections. Mais l'Union africaine, qui est l'institution incarner ces valeurs, n'a rien prononcé à ce propos. Donc, sa position nous déçoit totalement les Congolais.
Alors, est-ce que vous pensez que ça pourrait influencer quand même la décision de l'Union européenne?
L'Union européenne est indépendante, comme je l'ai dit. L'Union européenne n'a pas signé un accord avec l'Union africaine. Encore, la RDC n'a jamais été visée. Ce sont des individus tels qui fonctionnaient. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la plupart des individus ne sont plus en exercice de leurs fonctions. Je ne vois pas comment est-ce que l'Union européenne va commencer à répondre, comme mon confrère Arsène l'a dit. Pour 70 millions, on sanctionne 9, mais toute une institution africaine va venir protéger 9 personnes sanctionnées pour des griefs bien motivé dans la sanction.
Merci beaucoup, Adrien. Vous avez salué d'ailleurs le propos de notre invité tout à l'heure qui évoquait le rôle que joue actuellement l'Afrique ou a joué l'Afrique dans le développement mondial. C'est vrai, il faut capitaliser cela. Vous avez insisté dans votre intervention que la RDC n'a jamais été visée et donc à ce titre, l'Union africaine ne peut pas en tout cas s'engager dans cette voie de pouvoir demander soit-il par la conférence ou encore condamner cette pratique des sanctions qui ne vise que quelques individus et non toute la République démocratique du Congo. Dieudonné, vous êtes à Lubumbashi, bonjour et bienvenue. Dieudonné, vous êtes avec nous, bonjour. Voilà, on prend Maître Augustin qui est à Kinshasa. Maître Augustin, bonjour.
Bonjour, J.R.
Voilà, Maître Augustin, vous avez suivi vos prédécesseurs, et c'est vrai, il y a beaucoup d'inquiétudes hein, par rapport à cette problématique. Est-ce que vous estimez, vous, personnellement, que l'intervention de l'Union africaine pourrait avoir un impact et aussi permettre à l'Union européenne de retirer carrément ses sanctions?
Bon, merci beaucoup pour la parole. Je vous salue, la radio et puis les auditeurs de la radio d'après. Allô?
Ben allez-y, je vous ai déjà posé des questions, Maître Augustin.
Oui. Pour la question, je suis en train de dire que, vous savez, tout ce que nous constatons, c'est tout simplement la honte. Ce n'est pas parce que la décision va influencer quoi que ce soit, mais tout simplement, nous sommes en train de décrire cette honte. Vous comprendrez qu'en Afrique, on veut faire des antivaleurs, des valeurs, et mettre de côté les valeurs. Vous comprendrez que cette Union africaine a la copie collée de l'Union européenne, c'est-à-dire une organisation basée sur des valeurs, notamment la démocratie, le respect des droits de l'homme et consorts. Mais aujourd'hui, cette décision que l'Union africaine a prise, cette décision d'abord je ne sais pas par quelle mesure elle prend cette position, parce qu'on n'a pas sanctionné l'État, on a sanctionné des individus d'un État, mais c'est aujourd'hui l'Union africaine qui veut intervenir comme si elle était une organisation des individus. Vous allez comprendre que ici, on veut marcher sur la démocratie et notamment les droits de l'homme. Il y a des massacres et consorts au Congo, mais jamais l'Union africaine n'a pris la position du Congo. Mais lorsque on vise certaines personnes qui sont d'ailleurs à la base de tout ce qui se passe au Congo, non, c'est sur ces personnes-là que l'Union prend la position. Allô?
Merci beaucoup, Maître Augustin. On revient à vous, notre invité, Justin Bitakwira. Vous êtes ministre au développement rural et acteur politique. Vous avez suivi l'ensemble de nos compatriotes qui intervenaient donc dans cette émission, Séraphin, Adrien, Maître Augustin et tant d'autres. Alors, on se rend compte que finalement, la RDC n'a pas été sanctionnée et on ne comprend pas. En tout cas, disons si nous devons peut-être comprendre l'esprit et la lettre de ces interventions, on ne comprend pas pourquoi l'Union européenne ne peut que défendre les individus au lieu de défendre les États.
Oui, merci. Je salue d'abord M. Séraphin, je salue Adrien et je salue Maître Augustin. Et je comprends effectivement que notre échange, c'est un échange
citoyen,
républicain. Mmh. Et je crois effectivement que la radio Capi, c'est l'un des tambours qui incarne la démocratie dans notre pays, et que les différentes opinions y passent sans aucune difficulté. Et c'est à cet exercice que nous sommes en train de nous lancer ici. C'est vrai, Séraphin, je vous comprends très bien. Je comprends très bien, je comprends votre souci. Il est d'abord ici à préciser que même en ma qualité de membre du gouvernement, il n'a jamais été question ici de dire que bien qu'on n'a pas tenu les élections dans le délai, de dire qu'il n'y aura plus élection en République de Mauritanie. Il y en aura, absolument.
Mais quand ?
Il y en aura, qu'on le veuille ou pas.
Les acteurs politiques, vous vous êtes retrouvés à l'intérieur de César, vous étiez là à Bitakuira. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, vous vous sentez à l'aise s'il n'y a pas élection, par exemple, en 2017?
Non,
parce qu'il l'a déjà annoncé, d'ailleurs, Corneille Nangaa.
D'abord,
il y a un auditeur qui l'a dit.
Je vous informe que moi, je n'étais pas au centre intérieur de César, mais j'étais parmi les pionniers.
À l'Union africaine.
Qui ont crié sous les toits de maison, depuis le mois de juin 2016, que la voie obligée était le dialogue, pour effectivement qu'on essaie de voir comment un train qui a déraillé, on puisse le remettre sur les rails et que le processus se poursuive. Et quant au dialogue, ou ce qu'on appelle communément l'accord de la Saint-Sylvestre, du dialogue, du centre intérieur ces ans, moi je pensais effectivement qu'il y avait à boire et à manger dans cet accord. Parce que quand nous étions à la Cité de l'Union africaine, les experts des Nations Unies, les experts dont j'ai entendu parler hier, de l'OIF, ça j'ai même ma main à couper, nous avaient expliqué, on était comme dans une salle de classe, dans un auditoire d'étudiants, où on nous avait expliqué que nous étions le seul pays en Afrique, si pas au monde, qui n'a pas de fichier d'état civil. On nous avait expliqué, le seul pays au monde où nous n'avons pas de fichier d'état civil. Et que dans ce contexte-là, il était carrément presque impossible. Un pays qui équivaut presque, sur le plan géographique, à toute l'Union européenne, qu'il était impossible qu'on puisse faire les élections dans 6 mois, dans 1 an, que c'était impossible. Et on avait projeté, de manière objective, que les meilleures élections...
Mais sans fichier d'état civil, en 2006, on a organisé les élections.
En 2011,
on a organisé les élections.
Effectivement, vous voyez comment, en certains mois, nous allons vite en besogne. En 2006, quand il y a eu enrôlement, c'était en 2005. Après 5 ans, savez-vous combien de majeurs s'ajoutent? Savez-vous combien de morts il y a? Savez-vous combien ont perdu leur carte d'électeur? Mais un fichier d'état civil, c'est un fichier permanent. Et il faut rappeler ici que nous sommes le seul pays au monde où on n'a pas de carte d'identité. Moi, je me rappelle, c'est depuis 1999, quand Kakou Diété mis à l'intérieur, avec l'hôtel de Mouné, qu'on avait déjà une maquette d'une carte d'identité, et jusqu'à ce jour, de 1999 jusqu'à 2017, on n'a pas de carte d'identité. Donc nous devons faire attention, en croyant effectivement que nous sommes un pays normal. En un certain moment, nous sommes un pays anormal. Nous sommes un pays en un moment qui dysfonctionne, et que même l'élément élémentaire nous manque de temps en temps.
Alors,
et on finit. Oui. Ça finit par nous rattraper.
Alors, on n'a pas condamné la RDC, mais quelques individus. Alors, pourquoi aujourd'hui l'Union africaine s'acharne un peu à défendre quelques personnalités qui ont été sanctionnées?
Cela revient dans la bouche de tous les auditeurs qui ont intervenu, que ce soit Séraphin, que ce soit Adrien, et que ce soit Maître Augustin. Et c'est ça, effectivement, la dichotomie des pensées des Congolais, mes compatriotes. Pour eux, qui parlent de la RDC, voient uniquement un pays qui ne doit pas protéger ses propres citoyens. Un pays, c'est comme une famille. Un pays, c'est comme un corps. Il ne faut pas que quelqu'un vienne me dire ici, il n'y a que l'œil qui est blessé. Mais le pied est normal. Comment seulement l'œil est blessé, vous commencez à vous plaindre? Comment on t'a blessé qu'à l'oreille? Vous commencez à vous plaindre. L'oreille peut empêcher au corps de fonctionner. Il faut voir le pays dans son tout. Et dans une famille, vous voulez me dire que que dans la famille de Séraphin, parce qu'ils sont en 50 membres de famille, il y a 4 qui sont malades. Séraphin commence à me dire, sur 50, 4 uniquement est malade, vous commencez à vous plaindre. 4 seulement, nous restons à 56. Non. Je prends l'exemple de la Russie. Uniquement la Russie. La Russie, c'est un pays à côté de l'Union européenne. Tout à côté là. Vous savez comment la démocratie fonctionne en Russie. Un dauphin, l'autre se met un peu à l'écart, il revient. Un autre se met à l'écart, il revient. La Russie est en train de mener une guerre en Syrie. Une guerre en Syrie. Contre l'ONU, contre l'OTAN, contre l'Union européenne. Qui a-t-on déjà sanctionné en Russie? Qui? C'est un pays européen? Qui a-t-on déjà sanctionné en Russie? Qui?
Oui, mais monsieur le ministre, c'est un problème de choix. Nous avons opté pour un pays démocratique.
En tout cas, nous sommes suffisamment démocratiques. Par rapport à toute l'Afrique centrale, nous sommes suffisamment démocratiques. Comment nous sommes démocratiques? La démocratie ne signifie pas uniquement l'échelle de succession des élections. La démocratie, c'est aussi la mentalité. La démocratie, ce n'est pas seulement parce qu'on a tenu les élections. Savez-vous que même dans ces élections-là, il y a à boire et à manger. Certains élus ne sont pas proclamés. C'est les non-élus qui siègent dans certaines assemblées nationales. Il faut revoir. Deux, nous sommes un pays fragile, un État très fragile. Si aujourd'hui on organise les élections dans la précipitation, ce pays s'engouffre encore 100 fois plus qu'il ne l'est aujourd'hui.
Alors si on revient un peu à la question, est-ce qu'aujourd'hui l'Union européenne peut changer sa position?
Pardon?
Est-ce que l'Union européenne peut-elle changer sa position par rapport à cette demande, de cette plainte de la RDC?
Non. Quand l'Union africaine a pris cette décision, certaines personnes ne suivent plus RFI certainement. Le terme qui a été utilisé après la décision de l'Union africaine est que l'Union européenne vient de jeter l'éponge. C'est le terme qui a été utilisé. J'avais très bien suivi. L'Union européenne vient de jeter l'éponge. Vous savez, l'Union européenne a aussi une grande responsabilité. Et parfois une responsabilité négative. Où est la Libye aujourd'hui? Où est la Libye aujourd'hui? La Libye de Kadhafi. Elle est où?
L'Union européenne nous a aidé à organiser les élections en 2006, en 2011. Mais même, c'était des partenaires sûrs.
Même aujourd'hui, je vous informe
ouais.
qu'au cours d'un échange avec la CENI, on a conclu que l'Union
Est-ce qu'on ne peut pas considérer ça comme un regard d'un partenaire?
Écoutez,
un regard
que l'Union européenne et d'autres partenaires avaient déjà financé à peu près 158 millions de dollars. Mais les 158 millions de dollars ne sont pas versés ni à la CENI, ne sont pas versés ni au gouvernement congolais. C'est de l'argent versé dans les associations.
Des programmes parce que
je dis bien, voilà, oui, dans les associations, non, dans les associations.
Des programmes bancables très bien fignolés, très bien présentés.
Oui. Et
pour accompagner, en fait.
Et effectivement aussi, vous pouvez avoir dans un fruit un verre sans vous rendre compte que ce fruit est en train d'être rongé. Ces financements-là, que ce soit de l'Union européenne, que ce soit de d'autres partenaires multilatéraux, c'est aussi un verre dans un fruit. Parce que vous vous rendrez compte effectivement que les gens qui sont financés par cette Union européenne, c'est les porte-voix de l'Union européenne dans notre pays. Si vous ne parlez pas contre la République, vous n'aurez plus le prochain financement. Vous n'en aurez pas. Mais je suis tout à fait d'accord avec tous les auditeurs qui parlent ici sur le souci de pouvoir effectivement remettre le processus électoral
sur les rails. Parce que le processus, il y a un blocage.
Je suis tout à fait d'accord avec eux. Mais aidons-nous tous pour qu'on y arrive. Pour qu'on y arrive. C'est pas une question de sentiment. Parce qu'il y a des gens qui parlent avec leur cœur. Ici, c'est pas le cœur qui doit parler. Ici, c'est la raison. C'est la raison qui doit parler. Notre processus est en panne. Relevons-le. Depuis 2014, je me rappelle bien, c'était le 31 décembre 2014. Le patriarche Tshisekedi lance l'idée du dialogue. Le 31 décembre 2014. Il perd son âme d'ailleurs. Je suis un de ses descendants politiques, de ses héritiers. Il lance l'idée en 2014 du dialogue. Le dialogue n'a eu lieu que 2 ans plus tard. Et un dialogue boiteux. On le commence à travers l'Union africaine qui nous envoie des facilitateurs ici. Les autres disent non, ça c'est faux. Il faut un autre. On va dans un autre. Et comme je vous disais au début, que les experts des Nations Unies, les experts de l'UEIF nous proposaient qu'on ne peut avoir des élections qu'en vers 2019. Par caprice des politiciens. Je dis bien par caprice.
Vous avez négocié en 2018.
Oui, par caprice des politiciens. La CENI nous propose, mettons alors, pour essayer de voir ce qui est un peu équitable.
Couper la poire en deux.
Couper la poire en deux, mettons les élections en novembre 2018. Les politiciens disent, vous voyez, à l'extérieur, il y a la tension, il faut qu'on descende un peu.
Pour la consommation publique.
Pour la consommation publique, par plaisanterie. Pour plaire.
Mais vous, étiez là, pourquoi vous n'avez pas dénoncé ça?
J'ai dit les politiciens, et c'est ça la différence. Mmh. Ils mettent en avril 2018. Avec une date précise.
Tout en sachant que c'était impossible.
En sachant que c'était impossible. Je prends Vital Kamerhe à témoin, mon frère et ami, et je le salue d'ailleurs en passant. Parce que nous étions parmi les acteurs pour essayer de voir effectivement. Et moi, les conseils que je suis en train de donner, qu'après la mort du patriarche Tshisekedi, nous vivons une nouvelle ère politique. Mais les gens ne se sont pas rendus compte. La place des politiciens s'est arrêtée avec la mort du Tshisekedi. Ça s'est arrêté.
Voilà. On va écouter trois auditeurs et puis je reviendrai à vous pour une question également des curiosités sur aujourd'hui l'avenir, les relations. Est-ce que la position de l'Union africaine par rapport à l'Union européenne, ça n'éternit pas le rapport entre les deux institutions?
Je voulais insister hier. Les amis disent que quand il s'agit de la politique, nous parlons d'ingérence. Et quand il s'agit de l'aide, nous ne parlons pas d'ingérence. Vous savez, ce qu'on appelle aide. Moi, je suis ministre du développement rural. L'aide au développement, c'est pas un don. C'est une dette que payeront nos générations à venir. Et nous devons faire attention. Et je suis en train de réfléchir, effectivement, sur l'aide au développement. Quel est son impact en République démocratique du Congo? Et nous devons tirer attention. Faut pas que chaque fois qu'on vous dit, vous aurez 500 millions de dollars, vous commencez à applaudir. Vous avez une dette contractée. Et elle finira par se faire.
Voilà. Alors, Désiré Tamatali. Désiré, bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Et à ce qui concerne la demande de la délégation congolaise, et la position de l'Union européenne, l'Union africaine, par rapport à la question, je dis tout simplement que quand un pays cherche de se développer ou de s'y passer, il faut mettre l'ensemble des coopérations pour avancer. Dans ce sens où, quand la délégation congolaise sollicite ou demande de se retirer de certaines associations, cela prouve l'immaturité politique. Dans le sens où la RDC n'est pas sanctionnée. Quand certains individus du pays est sanctionné, mais cela montre tout simplement que nous devons quand même changer. Alors, la position de l'Union africaine par rapport à cette question, moi je me demande comment l'Union africaine peut quand même adopter ce que la délégation congolaise a sollicité. Mais cela montre tout simplement la faiblesse de l'Union africaine.
Nous l'avons dit, Désiré, l'Union africaine a condamné ouvertement, mais la grande question, c'est la résolution qui devait suivre pour finalement matérialiser ces soucis. Merci beaucoup. Ingénieur Valérie, vous êtes à Kindu, bonjour.
Bonjour, JR. Je crois que je vous l'avais bien annoncé.
Oui, je suis à Kinshasa, oui. Vous êtes à Kinshasa. Oui.
Merci. Oui, je salue également le ministre Justin Bitakwira et tous les auditeurs de la radio Capi. Quant à répondre directement à votre question portant à savoir si l'Union européenne va fléchir à la demande de l'Union africaine, quels que les problèmes même posés, moi j'ai l'impression que la démarche de la partie congolaise aurait pu se focaliser autrement que par l'Union africaine. Je pense que la partie congolaise n'a qu'à mener les démarches individuellement au regard des instances européennes, plutôt que passer par l'Union africaine. Pourquoi je l'ai dit? Parce que, si vous suivez bien, au niveau de cette institution, au niveau des grandes décisions qui doivent se prendre dans cette organisation, il vaut mieux se référer à des textes. L'Union européenne a fait pratiquement, pour moi, du boom, plutôt qu'une décision vraiment de grandes autorités. D'autant plus que l'Union européenne ne s'est pas référée à des tests. Elle a dit seulement comme ça, d'une manière générale, voilà, moi, l'Union européenne, je demande à l'Union, disons, moi, l'Union africaine, je demande à l'Union européenne de retirer. Par contre, si elle s'était référée à des tests, à ce moment-là, elle aurait eu maintenant l'Union européenne dans ses propres pièges si ces tests existent. Parce que moi, je sais que l'Union européenne s'est référée, entre autres, à l'accord de Cotonou et à beaucoup d'autres encore traités qu'elle a pu signer avec l'Afrique. À ce moment-là, tant qu'on n'a pas fait référence à des textes, on ne saura pas les avoir. Il aurait fallu qu'il fasse référence à des textes. Deuxième élément. Vous savez, parfois c'est nous-mêmes aussi qui ne faisons pas respecter lorsque, en notre propre sein, nous ne mettons pas du sérieux. Je suis vu dans un dialogue entre Congolais dernièrement. Il y a le président de la société civile du Nord Kivu qui a dit que l'attaque que nous avons eue dernièrement à l'Est, dans le Nord Kivu, est consécutive à une réunion qui s'était tenue en Ouganda avec tous les groupes armés qui œuvrent disons, au niveau du Nord Kivu. Et dernièrement, le professeur, je crois, Adief Moudimbi, qui était à Ouvira, dira qu'il y a une milice dont il y a le président de l'Assemblée nationale de Burundi qui appuie une milice ici. Mais lorsque nous-mêmes, nous ne parvenons pas à nous focaliser sur de telles questions, condamner, prendre des dispositions pour faire respecter la non-ingérence entre les États membres de l'Union africaine et que nous allons directement comme ça, sans nous référer à des textes, moi je crois que là, c'est déjà quelque chose
une démarche qui ne fait
pas. Il faudrait que la partie congolaise mène seulement cette démarche vis-à-vis de l'Union africaine, mais disons vis-à-vis de l'Union européenne. Mais passer par l'Union africaine, moi je ne pense pas du tout que cela aura d'impact.
Merci beaucoup, ingénieur Valérie. Kili Koumbi, vous êtes à Kindu, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à l'invité.
Est-ce que vous pensez comme Valérie que cela n'aura pas d'impact?
Pour ça, de mon avis, avant de dire si cela aura d'impact ou pas, laissez-moi d'abord de revenir par rapport à cette déclaration qu'on nous fait gober ici, qui ne figure nulle part ailleurs parmi les résolutions prises par le Venezuela sommet de l'Union africaine. Parce que j'ai lu cette résolution, et nulle part dans la résolution, on n'a pas mentionné que l'Union africaine soutient le gouvernement congolais, sinon une déclaration d'un des présidents africains qui a été faite à cet égard, et parce qu'on cherche à faire un jeu médiatique, on a voulu faire amplifier la situation. Maintenant, revenons-en maintenant au sujet. Bon, s'il y a un soutien de l'Union africaine, je pense que c'est un pas important franchi par la mouvance au pouvoir qui isolait et aux abois, et vous serez d'accord avec moi que le gouvernement congolais cherche depuis un tel soutien. C'est ainsi que nous avons vu, vous vous souviendrez, les ministres Chou qui tournent courir ça et là, et pour chercher un tel soutien. Mmh. Et alors, dans ce cas-là, le gouvernement peut se frotter les mains parce qu'il a réussi à faire ranger derrière lui une cinquantaine de pays. Quel représente l'Union africaine face à l'Union européenne? Je pense que c'est une déclaration qui consiste à miser la galerie. Parce que vous savez que l'Union africaine aujourd'hui est incapable de se prendre en charge elle. C'est-à-dire que la plupart des projets de l'Union africaine sont financés par l'Union européenne qu'on accuse aujourd'hui d'ingérence. Bon, j'ai entendu le ministre qui est sur les plateaux dire que ne devons pas être distrait parce qu'il s'agit de l'aide. Mais c'est suite à l'irresponsabilité de nos dirigeants que nous recourons toujours à des aides étrangères. Et pour les cas de notre pays, vous êtes en train de suivre avec moi que le gouvernement en place est en train de solliciter des appuis budgétaires et à part des mêmes institutions qu'on accuse aujourd'hui d'ingérence. Mmh. On doit cesser de se moquer de la population. Moi, je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau et cette déclaration de l'Union.
Voilà. Donc, vous avez dit que c'est là, c'est juste pour amuser et la galerie. Maître Sauville, vous êtes à Mbashi, bonjour et bienvenue.
À notre invité, M. Bitakwira, le ministre de l'Agriculture, et à tous les millions d'auditeurs de Radio Okapi. Par rapport à la thématique...
C'est plutôt le ministre du développement rural.
Oui, mais monsieur Gère, par rapport à la thématique, moi j'estime que ça n'aura aucun impact, ne nous l'aurons pas. Et d'ailleurs, pourquoi se frotter les mains? Or, ces sanctions sont réversibles. Et l'Union européenne l'a signifié. Lorsqu'il y a un changement de comportement, lorsque le comportement est amélioré par rapport à la bonne gouvernance, par rapport à la sécurité des Congolais, ces sanctions-là peuvent être levées. Il suffit d'améliorer seulement les comportements dans les chefs de ceux-là qui sont sanctionnés. Et moi, j'estime que l'Union africaine vient de confirmer sa substitution en syndicat de certains dictateurs africains. Puisque aujourd'hui, l'Union européenne, comme l'a dit l'un de mes prédécesseurs, la population est en train de croupir dans une misère profonde. Les libertés fondamentales se sont violées. L'Union africaine n'a jamais levé le ton pour venir à la rescousse de la population. Et pourquoi la politique de deux poids, deux mesures? Et d'ailleurs, nous aurons appris qu'on aurait versé de l'argent à certains chefs d'Afrique. Nous avons dit qu'on aurait versé l'argent à certains chefs africains, d'État africain qui étaient à ce 29e sommet. Et ce n'est pas de cette manière que l'Union africaine peut aider le Congo. Par contre, l'Union africaine devait même donner l'argent à la République démocratique du Congo pour l'organisation peut-être des élections. Moi, j'estime que l'Union européenne, quand elle a pris ses sanctions, c'est par rapport à l'acte de Cotonou, là où on parle de la bonne gouvernance, là on parle de la démocratie. Aujourd'hui, l'Europe est en train de combattre l'effet migratoire. C'est par la bonne gouvernance qu'on peut arrêter ce mouvement. Nos compatriotes africains sont en train de mourir dans des océans à cause de la mauvaise gouvernance dans les chefs de nos dirigeants. Mais si l'Union africaine était dans ses responsabilités, elle ne peut pas agir de la sorte.
Merci.
Et moi,
beaucoup.
Je conclue que ça n'aura aucun impact.
Merci.
Aucun impact.
Aucun impact. Merci beaucoup. Maître Coco, est-ce que partage cet avis? Maître Coco, vous êtes avec nous. Vous êtes analyste politique également. Que répondez-vous ou quelle analyse faites-vous par rapport à cette situation? Maître Coco? Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Maître Coco. Je crois qu'il va, on va le retrouver d'un moment à l'autre. Claude, vous êtes à Likassi, bonjour. Voilà, dommage. Donc, on a des petits soucis avec nos lignes. Il est temps que la réalisation nous aide à retrouver Maître Okoko et Claude pour, cet échange. On revient à vous, notre invité, Monsieur Justin Bitakuira, ministre au développement rural et acteur politique. Vous venez, c'est vrai, de suivre les uns les autres et les compatriotes qui ont pu quand même réfléchir de manière également citoyenne sur cette décision, de laquelle on qualifiait d'ailleurs d'une décision qui consiste simplement à amuser la galerie. Dès lors que les sanctions sont réversibles, parce que au fur et à mesure que la situation va évoluer, c'est relevé. Donc, au finish, c'est sans impact la position de l'Union africaine.
Non. En suivant les uns les autres, si cette émission, on la tenait au Sénégal, et qu'on donne la parole uniquement aux Congolais, et que les Sénégalais entendent ce que tous les Congolais, presque à 90%, soit en train de dire de leur pays par rapport à ces sanctions, les Sénégalais ne pouvaient pas se retrouver dans nous. Ils ne pouvaient pas se retrouver dans nous. Qu'un Congolais soit content, soit fier que son pays soit sanctionné. Mmh. C'est pour moi une grande surprise. Et je dois dire ici effectivement que c'est leur droit, parce que nous sommes la République démocratique du Congo, où il faut écouter tous les sons de cloches. Les uns pourraient avoir raison par rapport à moi. Mais moi, je dois dire ici que notre combat doit normalement être un combat avec un regard attentif sur l'avenir de son pays. Il ne faut pas placer votre combat dans des individus. Il ne faut pas que les gens confondent la République démocratique du Congo avec le président Kabila, je ne sais pas, avec Bruno Tshibala, ou avec Bitakuira, non. Les hommes vont passer, tous, y compris moi-même. Mais ce pays va demeurer. Et je suis en train de me poser mille et une questions. S'il ne faut pas que à l'école primaire, ou même à la maternelle, les cours d'éducation civique reviennent, parce que nous sommes carrément perdus. Et quand vous entendez les uns et les autres, on croit que tout État européen, tout État européen marche sur les roulettes. Aucun de tous ceux qui intervenaient, et ceux qui interviennent ici, ne savent pas que, en Europe, il y a plus de mendiants qu'à Lubumbashi, qu'en Europe, il n'y a plus de mendiants qu'à Kinshasa. Les gens s'imaginent que tout européen, c'est celui que nous avons connu quand les prêtres venaient ici, ils roulent carrosse. Alors on croit que tous les Européens sont riches.
Mais il y a une différence entre au niveau du pouvoir d'achat. Hein.
Le pouvoir d'achat, effectivement, c'est une question économique, c'est une question sociale. Là, je peux concéder.
C'est à ce niveau-là qu'on dit les thermomètres et tout va bien là-bas qu'ici. Par exemple,
mais,
quand vous touchez 100 dollars et que vous pouvez acheter autant d'histoires, ben je crois que c'est la comparaison n'a pas sa raison d'être.
Et un de vos auditeurs insiste sur le fait que quand la République du Congo va chercher de l'aide, en ce moment-là, la République du Congo se comporte comme un ange. Est-ce que celui-là sait que les États-Unis sont les pays les plus endettés du monde? Vous savez, les États-Unis doivent combien à la Chine? Savez-vous quelle est la dette publique de la France?
Savez-vous quelle est la dette publique? Alors, que faut-il faire aujourd'hui pour que nous évitions, par exemple, ces genres de confusions, Union européenne, des États européens qui s'ingèrent? Est-ce qu'il faudrait encore développer quelques mécanismes pouvant redorer l'image de l'Afrique, c'est-à-dire revenir de notre identité africaine?
Vous savez, moi, j'ai été parmi les experts qui réfléchissait effectivement sur le projet du président Kadhafi, sur les États-Unis d'Afrique. Et nous, à notre niveau, nous n'étions pas d'accord avec Kadhafi sur certains éléments, qu'il était impossible aujourd'hui de pouvoir transformer toute l'Afrique aux États-Unis d'Afrique. Et nous, on avait pensé qu'il fallait d'abord faire sous forme d'une confédération, de l'unité africaine. Et il y aurait 5 pôles de développement. Pretoria pour l'Afrique australe, Nairobi pour l'Est, Kinshasa pour l'Afrique centrale, Lagos pour l'Afrique de l'Ouest et le Caire pour le Maghreb. Et retenez bien ma réflexion ici. Quand vous allez en Afrique de l'Ouest, avec la CEDEAO, vous allez comprendre qu'en Afrique de l'Ouest, l'Union européenne ne peut pas tout se permettre. Étant donné la capacité d'organisation de la CEDEAO. Aller en Afrique australe. Avec la SADC. L'Union européenne ne peut pas se permettre n'importe quoi.
Ça ne marche pas avec nous, la région,
le Grand Lac. Le ventre mou. Le ventre mou de l'Afrique aujourd'hui, c'est l'Afrique centrale. C'est MAC, CAC et consorts. Donc nous devons aussi imiter.
Il faut travailler
sérieusement. Et le grand travail à faire, c'est la révolution des mentalités.
Ça nous aurait aidé d'ailleurs de faire un plaidoyer au niveau de la région.
Ça va aider d'abord à chacun des citoyens d'aimer son pays. À chacun des citoyens. Je ne vois pas quelqu'un venir parce que c'est un karatéka, parce que c'est un boxeur, il commence à arracher l'œil, le nez, l'oreille à ma mère. Et parce que je suis faible, je dis non, pourquoi vous avez laissé le bras? Donc, nous avons besoin d'une révolution de mentalité dans notre pays pour qu'on cesse de confondre les individus à l'État. Qu'on cesse de confondre le pays aux individus. Parce que je n'aime pas le président Kabila, alors je n'aime pas la République démocratique du Congo. Parce que je n'aime pas Bitakwira, moi vraiment, il faut que ce pays disparaisse. Et nous sommes aussi devant un défi.
Et c'est lequel?
Le défi, c'est l'homme congolais. Le défi, c'est l'homme congolais. Parce que l'homme congolais, tant qu'il n'aura pas intériorisé, qu'en dehors de la République démocratique du Congo, il n'a pas un autre pays en dehors de celui-ci, et l'effort à fournir pour les uns comme les autres, c'est de voir ce pays être stable, c'est de voir ce pays se développer un jour, et c'est de voir les richesses de la RDC profiter.
Mais il y a certains cas qu'on peut citer, le Cameroun par exemple, il est quand même suffisamment avancé dans certains projets de développement.
Non, vous savez, oui, le Cameroun c'est ma seconde patrie, j'y suis resté, je suis même presque un produit du Cameroun. C'est pas à dire que le Cameroun est tellement avancé. Je vous informe que partout où vous serez, ici à Kinshasa, vous trouvez un Camerounais qui n'est pas étudiant. Vous trouvez un Camerounais qui n'est pas diplomate, sachez que c'est un Feynman. Un Feynman, c'est celui qui fait les dollars en train de voler. Pourquoi les Camerounais sont pareils? Les Camerounais sont pareils parce que leur président de la République, le tout premier, Amadou Ahidjo,
a laissé un testament au Cameroun. Et il leur a dit, tout celui qui ne touchera pas à la terre, il mourra. Parce que ce pays n'a ni or, ni diamant, ni cobalt, ni zinc. Alors tout le monde s'est mis au travail. Ici, faire les champs ici, c'est un péché. Et c'est pourquoi tout le monde s'est réfugié à l'église. Pour aller cacher la paresse. Au lieu d'aller au champ, il va prier. Et il attend qu'il sera riche. Il aura un véhicule. Non. Même nos pasteurs, il faut le voir, le christianisme en République démocratique du Congo. Ça doit être un christianisme de développement. Pas de travail, pas de travail, pas de prière. Parce que la prière, c'est quoi? La prière, normalement, le pasteur devrait aller prier pour la récolte de ses fidèles.
C'est un peu relatif. Hein,
donc, moi, je dis ici, c'est tous les amis avec qui on débat ici.
En conclusion,
je peux ou ne pas choquer. Si je choque, je présente mes excuses. Mais il faut qu'on s'asseye comme les animaux malades de la peste de La Fontaine pour dire qui fait quoi, qui a fait quoi. Et le lièvre vient, il donne ses péchés. Le lion également, il donne ses péchés parce qu'il n'a pas une autre
voilà,
pays.
Voilà, c'est par ces conseils que nous disons merci à Justin Bitakwira qui est notre invité. En tout cas, c'était un grand plaisir de partager ce moment avec vous, Justin Bitakwira, ministre au développement rural et acteur politique qui a échangé avec nous sur la délégation congolaise qui a plaidé pour le retrait de la décision de sanctionner quelques personnalités de la République. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission, ceux qui l'ont écrit et aussi réalisé. Je pense à Héritier Sidi Akala qui était à la mise en onde, Piro Elamegi à la réalisation au standard de cette émission, coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Lwabung Anji. À très bientôt pour un autre numéro.